Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Raids aériens et tirs d'obus contre des positions du Hamas, représailles à coups de roquettes dans la matinée. Nous serons en ligne de Ramallah dans un instant. En Turquie, arrestations et lourdes condamnations sans discontinuer. Deux militants d'organisations et de journalistes que le pouvoir associe au prédicateur Fethullah Gulen. Précision et contextualisation d'Anne Henlauer à Istanbul. Avec Manon Clavry, les vertus multiples de l'agriculture urbaine en vitrine ce week-end dans 13 villes de France. Puis la bulle écho de Marie Viennot est consacrée ce samedi au conflit d'intérêts de la Banque Centrale Européenne. L'engrenage de la violence, une fois encore au Proche-Orient. Hier soir, un raid aérien israélien a ciblé deux rampes de lancement de roquettes à Gaza. Gaza, d'où 90 charges auraient été tirées en début de matinée. Bonjour Marine Vlaovic.
Bonjour.
Marine, vous êtes à Ramallah. Faut-il craindre une escalade militaire ?
Eh bien, depuis ce matin, les sirènes d'alerte ne cessent de retentir dans le sud d'Israël. En quelques heures seulement, des salves de roquettes et de tirs de mortier ont été tirés depuis la bande de Gaza, sans faire de victimes selon les services de secours israéliens. En représailles, l'État hébreu continue de bombarder des sites militaires du Hamas dans l'enclave palestinienne. Au moins un Palestinien a été tué au cours de ces frappes. Ce regain de tension intervient après un vendredi meurtrier le long de la barrière de séparation. Hier, au moins 4 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne au cours de heurts et de raids aériens. 2 soldats israéliens ont également été blessés. Après des semaines de calme relatif sur la ligne de séparation, les factions palestiniennes avaient promis de répondre à cette agression. Et alors que les dirigeants gazaouis étaient au Caire pour négocier un allègement du blocus. Ces barrages de tirs de roquettes pourraient donc être un énième levier de pression sur l'État hébreu et ne pas déboucher sur une véritable escalade militaire. Mais encore faudrait-il que le voisin égyptien, principal médiateur entre Israël et les factions de la bande de Gaza, réussissent à obtenir un retour au calme dans les heures qui viennent.
Merci à vous Marine Vlaovic, en direct de Ramallah. Le pilonnage d'un bastion djihadiste dans le nord-ouest syrien se poursuit. 12 civils ont été tués hier dans des bombardements du régime qui ont visé plusieurs villes de la province d'Idleb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Turquie, la litanie des arrestations et incarcérations sommaires de prétendus militants de l'organisation de Fethullah Gulen, prédicateur exilé aux États-Unis et meilleur ennemi de Recep Tayyip Erdogan, le président turc qui continue de faire régner la terreur au sein de toutes les strates et composantes de l'opposition, sans oublier de viser sans relâche la presse. Hier soir, la plus haute juridiction du pays a maintenu en détention Ahmet Altan, ancien rédacteur en chef du quotidien Taraf, et Nazli Ulcak, nos journalistes et anciennes députées, tous deux condamnés à la prison à vie. Les précisions à Istanbul, Dan Henlauer.
On savait la Cour constitutionnelle turque particulièrement frileuse ces dernières années quand il s'agit d'examiner des requêtes pour atteinte à la liberté d'expression, laissant traîner les dossiers les plus politiques, rechignant à statuer sur les affaires les plus sensibles. Et lorsqu'elle finit par se prononcer sur des cas somme toute similaires, elle délivre une justice à géométrie variable. Une série de verdicts rendus ces derniers jours l'illustre de façon inquiétante. Condamnés à la prison à perpétuité, les célèbres journalistes Ahmet Altan et Nazlı Ulcak avaient placé tous leurs espoirs dans cet ultime recours. Incarcérés dans le cadre des purges qui avaient immédiatement suivi le coup d'État manqué du 15 juillet 2016, ils avaient été jugés coupables de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel pour des liens présumés avec le prédicateur Fethullah Gulen, le cerveau désigné du putsch. À la majorité de ses 15 membres, tous nommés directement ou indirectement par le président Recep Tayyip Erdogan, la Cour constitutionnelle a jugé vendredi que les autorités n'avaient pas porté atteinte à leur liberté. Le même jour, les mêmes juges ont pourtant estimé que les droits de leur confrère Ali Bulaç, incarcéré pendant près de 2 ans pour les mêmes motifs, avaient été violés. La veille, ils avaient aussi donné raison à 2 autres journalistes de renom, Murat Aksoy et Kadri Gürsel, mais pas à 4 collaborateurs du quotidien d'opposition Cumhuriyet, quant à eux déboutés. Ces verdicts variables, que l'on retrouve aussi dans les juridictions inférieures, illustrent ce que le représentant local de Reporters sans frontières, Erol Önderoğlu, appelle la destruction du système judiciaire turc. Une justice sous influence, désorganisée, et elle-même purgée de près de 4000 de ses membres depuis le coup d'État avorté.
Reporters sans frontières s'inquiète de la disparition avant-hier à Tripoli de 2 journalistes libyens, salariés d'une télévision privée locale, proche du gouvernement d'Union nationale. Cette chaîne avance que ses 2 confrères ont été arrêtés par des éléments loyaux aux forces du maréchal Haftar. Les combats se poursuivent dans les faubourgs sud de la capitale libyenne. Au Sénégal, le projet de loi visant à supprimer le poste de Premier ministre est examiné par les députés depuis le milieu de la matinée. La majorité prétend qu'il s'agit d'un ajustement technique quand l'opposition dénonce un passage en force et une réforme en profondeur de l'État sans concertation. Quelle réaction des Sénégalais à cette réforme menée tambour battant par le président Macky Sall? Reportage dans le sud du pays à Ziguinchor en Casamance de William Delesseux de RFI.
Quartier de Boukot, c'est l'heure de la pause pour Baïlaba. Devant sa boutique, la couturière casse des noix de cajou.
Ouais, ça casse. C'est bon à manger. Nous, la Casamance, on est fiers d'être comme ça.
Plus de Premier ministre, la jeune femme regrette de ne pas avoir été consultée.
Quand tu veux que ton pays avance, il faut la discussion. Même le père de famille, avant qu'il fasse quelque chose, il devrait consulter la maman et les enfants d'abord, avant de prendre une décision. Mais lui, tout à fait le contraire, hein. Il prend sa décision, après, il sort ça.
Comment on consulterait les gens là-dessus?
Appeler au dialogue. C'était ça, non? Appeler au dialogue. S'il appelle aux gens, les gens vont lui répondre, Inch'Allah. Ça, je le sais.
Au garage d'en face, Ella Diop est venue faire réparer sa moto. Pour lui, le président n'est pas obligé de demander l'avis des citoyens. Et pourtant...
Il devait quand même sensibiliser la population, les expliquer le pourquoi donc ce choix a été fait. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas exactement le pourquoi donc la suppression du poste de Premier ministre. Vu que donc le projet sera voté à l'Assemblée nationale, et nous savons tous que l'Assemblée nationale, c'est le président qui est majorité là-bas, donc forcément, donc ça va passer. Donc on espère juste que cette décision-là sera une bonne décision pour notre pays.
Afin d'être adoptée, la réforme de la Constitution devra obtenir le vote de 3 députés sur 5.
Reportage de William Delesseux de RFI en Casamance. Quand le président vénézuélien passe au détecteur de mensonges de haut gradé de l'armée, après avoir, ce sont les termes de Nicolas Maduro, déjoué une escarmouche putschiste, son rival et président autoproclamé Juan Guaido exhorte une fois de plus l'armée à tourner kazakh et appelle à une nouvelle marche dite de la paix ce samedi. La Corée du Nord a tiré il y a quelques heures plusieurs missiles à courte portée en direction de la mer du Japon, annonce de l'armée sud-coréenne. Le processus de dénucléarisation de Pyongyang est dans l'impasse depuis 3 mois. Il est 12h37, vous écoutez le journal de France Culture. Après avoir pris part aux manifestations du 1er mai, traditionnellement initiées par les syndicats, les Gilets jaunes renouent avec leur calendrier, 25e samedi consécutif de mobilisation avec deux objectifs, reprendre leurs occupations de rond-point et défiler dans les principales villes du pays. À Paris, un premier cortège devrait s'élancer dans une petite demi-heure de l'hôpital Lariboisière dans le 10e arrondissement. Bonjour Justine Leclerc.
Bonjour.
Justine, vous êtes sur place et manifestement entourée de nombreux gilets jaunes.
Oui, déjà quelques centaines de personnes sont présentes juste à côté de la gare du Nord pour ce 25e acte des gilets jaunes. Des contestataires venus du Loiret, de Tours, de la région parisienne. Parmi eux, Éric Drouet, l'une des figures du mouvement. Le mot d'ordre de ce rassemblement dans la capitale, c'est la défense des services publics et plus particulièrement des hôpitaux. Les gilets jaunes réclament plus de moyens, plus de considération du personnel soignant et de meilleurs salaires. Malgré le froid et la pluie, les contestataires sont toujours là, donc pour ce 25e samedi d'action. Certains écœurés et en colère après les propos du ministre de l'Intérieur qui a parlé d'attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière mercredi lors de la manifestation du 1er mai. Le cortège doit maintenant partir dans plus d'une vingtaine de minutes. Les manifestants vont faire le tour des hôpitaux de l'Est parisien. Premier arrêt, l'hôpital de Lariboisière, puis Saint-Louis, Thenon et Saint-Antoine. Un parcours long de 12 km, dispersion prévue vers 18h. Deux autres rassemblements déclarés des Gilets jaunes sont également prévus cet après-midi dans la capitale.
Merci de ces précisions, Justine Leclerc, avec à vos côtés à la technique, Olivia Branget. Une conférence sur les arbres remarquables et autres semi-marathons. Ce sont là deux événements parmi bien d'autres à l'affiche ce week-end de la 4e édition des 48 heures de l'agriculture urbaine. 15 villes y participent, 13 en France et 2 en Belgique. L'agriculture urbaine a bonne presse et Manon Clavry. Cela ne consiste pas seulement à faire pousser des légumes sur son balcon.
Dans le monde, l'agriculture urbaine concerne 800 millions de personnes. Cette pratique est née d'un constat. Dans notre société mondialisée, si un choc économique, financier ou environnemental se produisait, on ne survivrait pas plus de quelques jours dans la plupart des villes. L'idée est donc d'élever, cultiver, produire, principalement de la nourriture ou des plantes, en réutilisant des composants qui se trouvent déjà sur place et de les redistribuer ensuite aux locaux, sans que la production ne parte à l'autre bout du monde, en avion ou dans des containers. Les containers, justement, peuvent plutôt être réaménagés pour y cultiver des fraises, par exemple. Une start-up le fait aujourd'hui en plein cœur de Paris. L'agriculture urbaine a donc une fonction environnementale, mais pas que. Elle sert aussi à la réinsertion sociale. À Nantes, par exemple, le projet des 5 ponts associe logements pour sans-abri, potager urbain sur le toit et restaurants solidaires. À terme, le but n'est pas forcément de rendre les villes totalement autonomes. La maison de l'agriculture urbaine juge elle-même que ce serait illusoire, mais simplement de réinventer un modèle de production agricole. Et c'est un moyen pour certaines villes sinistrées de se réinventer tout court, à l'image de Détroit aux États-Unis. L'ancien fleuron de l'industrie automobile américain est le leader de l'agriculture urbaine. 1500 fermes et jardins urbains y sont installés et 16 000 personnes en bénéficient.
Manon Claverie.
La bulle économique, Marie Viennot.
Et aujourd'hui, une bulle économique consacrée à la façon dont la Banque Centrale Européenne gère ses conflits d'intérêts.
Les conflits d'intérêts ne datent pas d'hier, tout comme cette chanson des années 80. À cette époque, il n'y avait pas grand-chose pour les éviter, car on passait moins souvent du public au privé et vice-versa. Aujourd'hui que ces allers-retours sont légions et parfois suspects, les institutions publiques se dotent de codes de bonne conduite et de prévention des conflits d'intérêts. Même la Banque Centrale Européenne a dû s'y mettre. Mais qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts pour un banquier central? Du temps où la BCE pilotait surtout les taux d'intérêt, aucun agent économique n'en profitait plus qu'un autre. Après la crise financière, tout a changé. Aujourd'hui, la BCE achète des dettes d'État, des dettes d'entreprise. Elle surveille les plus grandes banques de la zone euro, peut décider in fine que l'une d'elles mérite d'être sauvée ou pas. Les conflits d'intérêts potentiels sont donc beaucoup plus nombreux. Depuis la mi-avril, opération transparence. Les 19 banquiers centraux de chaque pays et les 5 membres du conseil exécutif, dont Mario Draghi, le président de la BCE, ont publié une déclaration d'intérêt individuel. 5 questions leur sont posées. Mandat occupé les 3 années avant la prise de fonction à la BCE, autres fonctions et mandats, gains éventuels tirés de ses activités, intérêts financiers et postes de l'époux ou épouse. À la lecture de ces documents, on apprend que 13 membres du conseil de la BCE ont plus de 100 000 euros sur un compte courant d'une banque sous la supervision de la BCE. Quelle banque? Ce n'est pas public. Impossible donc de juger des conflits d'intérêts potentiels si telle ou telle banque devait un jour bénéficier d'une décision prise par la BCE. C'est plus précis, en revanche, pour l'argent qui est placé. Plusieurs gouverneurs déclarent des avoirs dans des actions d'entreprise, des fonds et même des fonds spéculatifs. C'est le cas des gouverneurs chypriotes, hollandais et luxembourgeois. Le savoir, c'est bien, mais après? Après, rien. Il n'y a pas de conflit d'intérêts sur ces placements, selon la BCE, qui fait savoir que des cas plus problématiques ont été traités en amont de cette publication. Mais, au fait, qui pour juger qu'il y a un conflit d'intérêts ou pas? C'est là que l'opération transparence montre sa vraie nature endogame. Le comité éthique de la BCE, c'est lui qui décide. Et qui nomme ce comité? Le conseil des gouverneurs, que ce comité est chargé de surveiller. Et qui trouve-t-on dans ce comité? 3 personnes, Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la BCE et 2 autres anciens banquiers centraux. On reste donc en milieu fermé, il n'y a aucun expert indépendant. Pour couronner le tout, il n'y a aucune vérification des déclarations faites, c'est du déclaratif pur et aucune sanction n'est prévue s'il était découvert a posteriori qu'une déclaration était mensongère. Transparent ou pas, les hauts gradés de la BCE n'ont de conseil à recevoir de personne et cette déclaration d'intérêt en est d'ailleurs la preuve officielle. Il y a un an, la médiatrice de l'Union européenne a recommandé à Mario Draghi, le président de la BCE, de ne plus être membre du groupe des 30. Le G30, c'est un groupe privé basé à Washington qui réunit des gouverneurs de banques centrales, des chercheurs et aussi des patrons de banques privées dont certaines sont sous la supervision de la BCE. Participer à des discussions, pourquoi pas, recommande la médiatrice, mais être membre, non. Or, sur sa déclaration d'intérêt, Mario Draghi mentionne sans ciller sa qualité de membre de ce G30 sans que le comité éthique n'y ait rien vu à redire, ni d'ailleurs l'actuel Parlement européen. Et le prochain, ça dépend en partie de vous. Des ONG ont lancé cette semaine une campagne auprès des candidats aux élections. Elles leur demandent de signer un document par lequel ils s'engagent à réduire l'influence des lobbies financiers des instances européennes pendant leur mandat. La tâche qui reste à accomplir est immense.
Merci à vous, Marie Viennot. La météo de l'après-midi, pluie et vent puissants des Pays de Loire au centre, la Bourgogne au nord-est, perturbation qui donnera des chutes de neige des 300 à 400 mètres d'altitude sur les Ardennes, les Vosges et le Jura. Sur le pourtour méditerranéen, temps sec et forte rafale de tramontane et de mistral. Cette édition a été préparée avec Julien Loquet, à la technique Théo Gomard.